Je reviens donc sur notre sujet d'aujourd'hui, presse et justice. Deux mondes donc qui se côtoient en permanence, qui s'observent, beaucoup trop proches l'un de l'autre pour les uns, en perpétuelle opposition pour d'autres, la justice demandant du temps, alors que la presse vit dans l'instantané. La justice obéissant à des normes législatives et réglementaires, alors que la presse enquête librement. Comment concilier le respect de la présomption d'innocence et la liberté de communication ? Que dire, éventuellement, si les questions se portent sur ce point-là, du secret des sources ? Tout cela sachant que la presse est plurielle. Certains journalistes enquêtent, d'autres rendent compte des procès auxquels ils assistent, d'autres écrivent sur le fonctionnement de l'institution judiciaire, d'autres encore filment des audiences à des fins pédagogiques, certains cumulant même ces diverses fonctions. On ne compte plus les commissions ou groupes de travail qui ont été créés au cours de ces 50 dernières années pour rechercher le meilleur équilibre possible entre ces deux mondes. Les textes, eux aussi, ont été souvent modifiés, tout comme les comportements. De mon temps, un procureur se taisait. On lui demandait de communiquer par écrit ou, à condition d'être prudent, off. Aujourd'hui, on leur demande de parler. Ils parlent beaucoup et certains parlent peut-être même parfois un peu trop et un peu vite. Il nous faudrait donc beaucoup plus que 2 heures pour espérer épuiser ce sujet. Alors nous serons modestes. Nous avons aujourd'hui, comme la semaine dernière, 2 communicants, ce qui rend pour eux les choses peut-être un peu plus compliquées, 2 journalistes, 2 chroniqueurs judiciaires, familiers des prétoires, qui connaissent bien le personnel judiciaire, qui réfléchissent sur la justice. Il n'y a pas tant de gens qui réfléchissent sur la justice, sur son fonctionnement, et qui s'efforcent de la montrer et de l'expliquer. Et ils vont vous faire part de leur point de vue, vous dire quel est le regard qu'ils portent sur la justice, à la lumière de leurs pratiques et surtout de leurs expériences respectives. Alors, ils ne sont pas journalistes d'investigation, mais cela ne vous empêchera pas de les questionner, éventuellement, sur le secret de l'enquête et de l'instruction, autant de questions qu'ils possèdent en tête malgré tout. Ils ont choisi librement la partie de ce vaste sujet qu'ils entendent traiter et l'angle sous lequel ils l'aborderont. Et ils nous en parleront tout aussi librement, sans nullement prétendre mettre un terme à un débat qui se renouvelle constamment, ne serait-ce qu'en raison de la tout aussi constante évolution des modes de système d'information. Alors, nous avons avec nous, immédiatement à la droite du pupitre, Dominique Verdeillan, journaliste de télévision. Après avoir exercé à RTL, il a rejoint Antenne 2, puis France 2, où durant plus de 30 ans, il a couvert les grandes affaires judiciaires. Depuis octobre 2022, il présente l'émission Justice en France sur France 2, qui est diffusée, malheureusement, à une heure un peu tardive. Il a publié en 2017 « Les magistrats sur le divan ». En 2021, l'audience est ouverte, chronique d'une justice défaillante. Et en 2023, les cabossés de la justice. Il anime l'émission Justice en France, pardon, c'est celle-là qui est diffusée actuellement sur France 2, en deuxième partie de soirée, et non pas celle que... Si, c'est bien celle-là, oui. Pendant 2 années, il a siégé comme assesseur extérieur au sein des commissions de discipline de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Pas banal pour un journaliste et intéressant. Mathieu Delahousse, qui est à sa droite, représente aujourd'hui la presse écrite et non pas la presse télévisée. Il est depuis 2014 grand reporter, notamment Enquête Justice, au Nouvel Observateur qui vient de reprendre son nom après avoir temporairement utilisé le nom de l'Observateur. Il avait auparavant et sur les mêmes thèmes travaillé à RTL, au Figaro, à Europe 1, à Radio Monte-Carlo, ainsi qu'à Sud Radio Toulouse. Il a produit 2 documentaires, « Dans les yeux des juges »,« 5 magistrats se racontent », France 2, 2022, et « Le prix de l'innocence », »,« Dans les secrets des erreurs judiciaires », France 2, 2019. Il a déjà publié 7 ouvrages, parmi lesquels, je signale, Justice, le ministère infernal. Enquête sur la place Vendôme, Flammarion, en 2009. Si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Pour qui s'intéresse au fonctionnement de la place Vendôme, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est objectif. Beaucoup d'interviews, beaucoup de commentaires, de réflexions sur ces interviews et sur ces commentaires. Et pour quelqu'un qui, comme moi, a fait 3 séjours place Vendôme, à des postes différents, c'est très réel. Ça vaut le coup. Et les 2 derniers ouvrages parus, car je ne peux pas tout lire, « Le prix de nos larmes, le roman noir des victimes du terrorisme, 2022 », « La chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français, 2019 ». Il donne des enseignements à Sciences Po Paris. Donc Dominique Verdeillan parlera le premier, il sera suivi par Mathieu Delahousse, et puis ils répondront ensuite, soit isolément, soit tous deux, comme la semaine dernière, aux questions que vous voudrez bien leur poser. Donc Dominique, si vous voulez vous installer à ce pupitre, nous vous écoutons. Il est, je regarde, 15h15. Voilà, l'idéal serait que tout soit terminé à 16h15 pour avoir 45 minutes de questions et de débats. À vous la parole.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs les académiciens. D'abord, merci monsieur Cotte de l'honneur que vous me faites de me demander de participer à votre réflexion sur les regards sur la justice. Et merci à vous tous de l'écoute que vous voudrez bien me porter. Alors quittons, si vous le voulez bien, quelques instants cette salle du Quai Conti pour nous rendre à quelques centaines de mètres d'ici, dans l'ancien palais de justice. Franchissons la grande grille, la cour de mai, montons le grand escalier, arpentons quelques mètres des 27 kilomètres de couloirs du bâtiment, désormais un peu désert depuis l'ouverture de la cité judiciaire des Batignolles. Et une fois parvenus dans le gigantesque vestibule de Harlay, grimpons encore quelques marches pour pénétrer dans la mythique salle de la cour d'assises de Paris. C'est un lieu forcément impressionnant pour quelqu'un qui y entre pour la première fois, impressionnant par le décorum et la solennité, impressionnant tant d'affaires criminelles y ont trouvé ici un épilogue généralement dramatique, quelques mètres encore à parcourir pour franchir une petite porte en fer forgé et se trouver dans le prétoire, là où tout se passe, là où tout se joue. L'avenir carcéral d'un homme ou d'une femme, installé dans le box qui est situé à notre droite, les attentes et les espoirs des familles de victimes assises sur des bancs inconfortables réservés aux parties civiles sur notre gauche. Mais je voudrais surtout attirer votre attention sur le petit box qui est situé sur votre gauche en arrière-plan. C'est l'emplacement réservé à la presse. Il compte une douzaine de places et s'avère depuis longtemps bien trop petit au regard du nombre de médias suivant les audiences. La situation géographique de ce box est révélatrice et symptomatique des relations que les journalistes ont avec l'institution judiciaire. Comme pour souligner l'ambiguïté de cette relation, de ce mariage forcé, il est situé dans le prétoire, alors que l'entrée de la presse se fait par une ouverture dans l'espace réservé au public. Autrement dit, journaliste, je suis dans le périmètre judiciaire, mais je n'y pénètre que pas par le même chemin que les professionnels de la justice. C'est une façon de prendre ses distances, de marquer sa différence, d'insister sur un point essentiel. Le journaliste, chroniqueur judiciaire ou pas, n'est pas un auxiliaire de justice. Il n'est pas juge, il n'est pas procureur, il n'est pas avocat d'une cause. Il est avant tout un témoin privilégié. Un observateur, journaliste spécialisé, il doit, pour garder toute sa crédibilité, connaître les rouages de la procédure pénale, utiliser les bons termes, savoir simplifier, synthétiser pour décrypter. C'est un point commun qu'il a avec son confrère, chroniqueur médical, chroniqueur économique, chroniqueur scientifique. La complexité consiste à entretenir des liens privilégiés avec les magistrats et les avocats, sans aller jusqu'à la connivence, jusqu'à la complicité, probablement une problématique commune au journalisme politique. Alors cette indépendance entre ces deux mondes doit permettre à la presse d'être le plus souvent possible un contre-pouvoir, non pas pour juger à la place du juge, même si cela arrive malheureusement assez souvent, mais pour être un aiguillon, un révélateur, un électrochoc. Remontons, si vous le voulez bien, dans le temps. Sans la contre-enquête de Lionel Duroy dans l'affaire de la mode du Caire dans les années 90, la justice n'aurait pas tourné casaque dans ses accusations contre Richard Roman dans le meurtre de la petite Cécile Jourdan, dont seul Didier Gentil était coupable. Sans les révélations d'Anne-Marie Casteret, le scandale sanitaire du sang contaminé n'aurait pas eu d'issue judiciaire. Sans l'enquête du journaliste Denis Robert, la justice ne se serait pas saisie du dossier Clearstream. De même, désormais, le parquet national financier ouvre régulièrement une enquête préliminaire sur des faits délictueux révélés par différents organes de presse, et ce n'est pas un hasard si le mot « enquête » est commun à nos terminologies. Là encore, révéler, dénoncer est une chose, juger et condamner en est une autre, à chacun sa mission. Et comme régulièrement souligné, et comme vous l'avez dit, le temps médiatique n'étant pas le même que le temps judiciaire, il y a une dérive néfaste qui consiste à rendre des verdicts avant l'heure. Alors parmi les reproches que l'on peut faire aux médias, il y a la fâcheuse tendance, aussi bien lors de l'instruction que lors du procès, de tendre le micro vers les parties civiles et par conséquent de privilégier l'émotion au détriment du contradictoire. À défaut d'être entendu par la justice, la victime se confie en désespoir de cause aux journalistes. Ce fut le cas d'une manière flagrante lors du procès de l'affaire Outreau à Saint-Omer, le jour même des dénégations de Myriam Badawi devant la cour d'assises. Et après avoir mis en cause les soi-disant notables, la presse leur a donné la parole en guise de réhabilitation. De ce fait, volontairement ou pas, les médias, toutes tendances confondues, participent à ce déséquilibre qui veut que dans le débat judiciaire, la victime occupe une place plus importante que celle prévue par la procédure pénale. Un glissement que la justice a elle-même pris en compte. Au fil des années, les procès se sont rallongés dans la durée, les magistrats considérant que plusieurs audiences devaient être consacrées à la parole des parties civiles, quitte à les débouter de leurs actions juridiques en fin de course, se commettra de signaler la presse à l'issue de la procédure. Autre exemple de cette indépendance entre ces deux institutions, la liberté de commenter. Pour ma part, derrière le fait divers proprement dit, je me suis toujours efforcé d'éclairer le téléspectateur sur un point qui me paraissait essentiel. Lors du procès, point final de la procédure, la justice rendue au nom du peuple français l'a-t-elle été d'une manière satisfaisante ? C'est encore une fois notre rôle de témoin privilégié. À la fin de l'année 2023, s'est tenu devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine le procès de Monique Olivier pour l'enlèvement, la séquestration et la mort de trois jeunes filles disparues, pour certaines il y a plus de 30 ans. Les familles étaient en droit d'attendre un procès irréprochable, réparateur, après des années d'errance de la justice qui se sont soldées par la mort du principal accusé, Michel Fourniret. Eh bien, la presque totalité des journalistes qui a suivi les 3 semaines d'audience a souligné la rigidité et le manque de psychologie avec lesquels les débats ont été présidés. Longtemps, la justice a eu un point commun avec l'armée, l'impossibilité maladive à communiquer, ce qui lui a valu à son tour d'être qualifié de grande muette. Silence radio pour obtenir confirmation d'un détail de procédure, un éclaircissement juridique sur un point de droit, à tel point qu'il était usage de parler des magistrats en disant « ils ne nous donnent même pas l'heure ». Nous devions nous tourner vers les avocats pour obtenir, à la veille de l'ouverture d'un procès, un document essentiel à la compréhension du dossier, soit le réquisitoire définitif établissant les accusations soutenues par le procureur, soit l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction relevant les éléments à charge et à décharge. Aujourd'hui, la presse éprouve encore une réelle difficulté à obtenir les copies des jugements ou les feuilles de motivation, rendant compliquée l'information et le décryptage d'une décision de justice à l'intention de l'opinion publique. Agacé, traumatisé par les dérapages médiatiques de certains magistrats, comme le juge Pascal dans l'affaire Brigitte Devers à Bruay-en-Artois, ou le juge Lambert dans l'affaire Grégory, la justice s'est reformée sur elle-même. Il a fallu le cataclysme du dossier dit d'Outreau au début des années 2000 pour qu'en haut lieu, on prenne conscience de la nécessité de communiquer. En s'inspirant de l'expérience de la Belgique lors du procès de Marc Dutroux, la cour d'appel d'Angers a désigné un magistrat du parquet lors du procès du réseau pédophile en 2005. Et dans le même temps, sont nés les porte-paroles, d'abord au ministère de la Justice, ensuite dans les juridictions, des porte-paroles chargés de répondre aux éventuelles sollicitations de la presse ou d'intervenir pour une communication d'urgence de crise. Autre signe de l'évolution de la mentalité de l'institution judiciaire. Vous l'avez dit, discrets jusqu'à présent, les procureurs de la République sont devenus presque bavards. Ils communiquent, tiennent des conférences de presse retransmises en direct sur les chaînes info dès le déclenchement d'un fait divers. Ils équilibrent le plateau de la balance, symbole de la justice. Ils sont un contrepoint à la parole de l'avocat qui plaidait souvent seul face à la presse. Ils ont des comptes sur X, ex-Twitter. Ils incarnent la justice, ils offrent un visage à la justice. Les magistrats sortent de leur tour d'ivoire. Il était temps. Pendant plusieurs années, avec mon confrère de TF1, Jean-Pierre Berthet, nous avons participé au stage de média training au sein de la formation continue à l'École nationale de la magistrature. Dans les premiers temps, nous étions parfois confrontés à des magistrats qui refusaient de se livrer aux exercices que nous leur soumettions. D'autres, en revanche, se réjouissaient que nous leur apportions quelques clés pour gérer le déferlement médiatique provoqué par un fait divers. Ainsi, un procureur nous a un jour remercié de l'aide que nous lui avions apportée alors que, de retour dans sa juridiction, il avait dû confronter une meute de journalistes suite à la disparition troublante d'une famille en Bretagne. Le magistrat en question est aujourd'hui l'un des plus hauts magistrats de France. Je ne dis pas que c'est grâce à nous, mais son sens de la communication y a sans doute contribué. Espérons que cette avancée significative perdure, car pour l'instant, la prise de parole des procureurs se focalise au début de la procédure. Ensuite, la justice entre dans une longue période de mutisme, un silence regrettable. Regrettable quand il s'agit de contrecarrer la parole de la partie adverse. Regrettable quand il s'agit de rectifier des inexactitudes procédurales. Regrettable quand il s'agit de prendre la défense d'un collègue injustement accusé par les politiques, par une partie civile ou par la presse. On ne peut que se féliciter que la semaine dernière, le procureur de Nantes ait remis à sa place la sœur de Dupont de Ligonnès après ses élucubrations livresques auxquelles les médias ont donné un écho surdimensionné. Les victimes n'ont pas tous les droits. La justice garde encore une culture du secret. C'est lié à son éducation, à son enseignement, à son état d'esprit, à son mode de fonctionnement. Conséquence, il est assez paradoxal que l'institution chargée de poursuivre, d'accuser, soit dans l'incapacité de se défendre quand elle est attaquée, souvent à tort. Signe d'une évolution des mentalités de la part des magistrats, juges et procureurs acceptent désormais de parler de leur métier. Ce n'est que très récemment que certains d'entre eux ont publié leurs souvenirs, à l'instar de ce que de nombreux avocats avaient fait dans le passé. Mais parler de ces émotions, de ces ressentis face aux affaires qu'ils ont à traiter, était encore il y a quelque temps tabou. Révéler à ses supérieurs et hiérarchiques ses angoisses, ses interrogations, pouvait être considéré comme un aveu de faiblesse. Sans trop y croire, je me suis adressé en 2015 à plusieurs magistrats afin de savoir, vous l'avez dit, quelles affaires les avaient particulièrement impactés et de quelle façon ils avaient géré leurs émotions. À ma grande surprise, près d'une centaine de magistrats ont accepté de se livrer. Ces magistrats sur le divan se sont confiés sans filtre alors que la plupart étaient encore en exercice. 10 ans plus tard, ces confidences sont devenues moins rares. En aucune manière, pour les magistrats comme pour les journalistes qui se confient, il s'agit de mettre en comparaison son traumatisme avec celui des victimes ou de leur famille. Mais concernant les juges et les procureurs, cela offre à l'opinion publique une image plus humaine et incarnée de la justice. La multiplication des chaînes info, la prolifération des réseaux sociaux ont eu ces dernières années pour conséquence d'accroître le risque d'une justice parallèle, celle qui se rend dans les couloirs des palais de justice et qui ne correspond pas forcément à la réalité de l'audience, celle qui prolifère sur les plateaux de télévision. Des avocats, des magistrats, des experts, des journalistes viennent commenter une procédure, une décision de justice sur un dossier que pour la plupart du temps, ils ne connaissent pas, sur lesquels ils ne sont pas compétents. Car si les délais de procédure, autant au pénal qu'au civil, ne sont guère satisfaisants aux yeux des justiciables comme à ceux des professionnels de la justice, le rythme de la médiatisation s'est accéléré. Les agences de presse, principales sources d'informations, sont désormais prises de vitesse par les réseaux sociaux. plus besoin d'attendre pour apprendre que telle personnalité a été placée en garde à vue, que tel témoin a mis en difficulté la stratégie de défense d'un accusé, que tel tribunal vient de relaxer un ministre poursuivi dans l'exercice de ses fonctions. L'information, recoupée ou pas, analysée ou pas, est révélée dans la seconde, sur votre smartphone. Je vais y arriver. Un bouleversement dans l'univers de la presse qui a modifié la façon de travailler de plusieurs médias. L'hypermédiatisation de la justice a réduit la place de la chronique judiciaire dans les journaux télévisés et dans certains quotidiens. Fini le procès suivi tel un feuilleton avec un rendez-vous quasi quotidien pour le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur. Réduit aussi, comme peau de chagrin, la pagination dans la presse écrite, le temps d'antenne dans la presse audiovisuelle. Dans une société hypermédiatisée où règne l'image en nécessité absolue, la justice est victime de sa frilosité. Ce culte du secret évoqué précédemment. Pour certains de nos contemporains, la justice est l'image véhiculée par des séries souvent américaines qui offrent une fausse connaissance de notre procédure inquisitoire. Même s'il ne faut pas oublier le travail d'André Cayatte ou d'Yves Boisset il y a plusieurs décennies, ce n'est que dernièrement que l'univers judiciaire a repris sa place dans le 7e art français. Notre cinéma, probablement sous l'impulsion de Georges Simenon, a toujours privilégié le personnage du commissaire à celui du juge. Outre le fait de minimiser le rôle du magistrat par rapport aux policiers, cette situation ne participe pas à la valeur pédagogique que peuvent avoir de telles œuvres. À cela s'ajoute un contretemps législatif qui a fermé les portes de la justice au monde de l'image. Nous sommes à la fin de l'année 1954, devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence, à Digne. On y juge un vieux patriarche pour le meurtre d'un couple anglais et de leur fille sur le bord d'une route près du village de Lurse. Depuis 2 ans, l'affaire Dominici fait l'objet d'une importante médiatisation. La salle est trop petite pour y accueillir la foule de journalistes venus couvrir le procès du vieux Gaston. Des rédacteurs sont installés derrière la cour. L'écrivain Jean Giono parvient à trouver une place. L'affaire a même traversé l'Atlantique, puisque Orson Welles envisage de la porter à l'écran. Mais ce qui perturbe la sérénité des débats et qui va irriter le président des Assises, ce sont les photographies et les caméramens qui circulent sans vergogne dans la salle d'audience. Rappelons qu'à l'époque, la technologie dans le domaine de la prise de vue n'était pas particulièrement silencieuse. L'incident étant remonté jusqu'en haut lieu, il fut décidé que tout enregistrement audiovisuel serait interdit dans le prétoire dès l'ouverture des débats. Comme 15 ans plus tôt, le président du Conseil de l'époque avait décidé que les exécutions à mort ne seraient plus sur la place publique. Des photos de celles d'un tueur en série, Eugène Weinmann, sur le trottoir devant le palais de justice de Versailles, avaient été publiées le lendemain dans plusieurs organes de presse. L'image d'un procès se résume depuis à des dessins d'audience et à quelques prises de vue faites avec l'accord des intéressés avant l'ouverture des débats. Photographies et images demeurent des témoignages incontournables de ces instants d'audience. En 85, on le sait, une loi votée sous l'impulsion de Robert Badinter à leur garde des Sceaux a autorisé la captation des procès à caractère historique. Barbie, Touvier, Papon, la catastrophe à ZF, les attentats terroristes. Il s'agit avant tout de constituer des archives et non d'une diffusion à grande échelle. En décembre 2021, une nouvelle loi votée par le Parlement autorise la captation de procès dans une démarche pédagogique. Pour Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, il s'agit par cette diffusion d'audience, reflet de la justice au quotidien, de redonner confiance aux Français dans leur justice. Cela a donné, vous l'avez dit, naissance, après une convention signée entre le ministère de la Justice et France Télévisions, à l'émission Justice en France diffusée sur France 2. Loin de la justice liée aux faits divers, aux grandes affaires criminelles, il s'agit de permettre aux téléspectateurs de suivre des audiences dont on ne parle jamais, où une caméra est rarement autorisée à pénétrer, en lui offrant une immersion, pendant presque une heure dans le cabinet d'un juge aux affaires familiales, d'un juge des tutelles, dans une audience de surendettement. Eh bien, le téléspectateur découvre un aspect de l'institution judiciaire qui lui était totalement étranger. Au moins, il peut ensuite formuler des critiques en pleine connaissance de cause. C'est aussi une évolution notoire dans l'institution judiciaire. Le juge, le procureur, accepte de remplir sa mission sous le regard de l'autre, de la presse et du public, conscient que cette exposition peut engendrer de la part de l'observateur un jugement de valeur. médiatisé, le magistrat peut être reconnu et interpellé de façon par un autre justiciable. Sortant de l'anonymat, il peut essuyer les foudres d'un chroniqueur judiciaire, parfois féroce, je l'ai évoqué tout à l'heure avec le procès de Monique Olivier. La justice est régulièrement critiquée par les justiciables, qui la trouvent trop longue, trop compliquée, trop chère, et par tous ceux qui ne la connaissent pas. Leur regard devient différent quand ils y participent d'une manière ou d'une autre. C'est le cas de ceux qui vivent l'expérience de jurer aux assises. En dehors du poids qu'ils doivent endosser, en ayant à leur tour la responsabilité de juger, eh bien la plupart de ceux qui ont été jurés populaires reconnaissent qu'ils comprennent mieux le fonctionnement de la justice et la complexité du métier de magistrat. Longtemps, lors des débats sur la présence des caméras dans les prétoires, les magistrats et avocats se sont interrogés sur l'influence que cela aurait sur leur comportement. Enfin, si on ne peut écarter l'idée que la présence de la presse puisse parfois influer sur une décision de justice, dans certaines affaires sensibles, force est de constater que le magistrat est avant tout accaparé par l'affaire dont il est saisi. Se rappelant ainsi un conseil de l'ancien premier président de la Cour de cassation, Pierre Truche, qui enseignait aux auditeurs de justice « Dites-vous que la personne que vous avez devant vous, parmi tous les dossiers que vous avez à gérer, le sien est le plus important à ses yeux. » Parallèlement, les docu-fictions ou certaines séries inspirées de faits réels ont le mérite de souligner les défaillances de la justice dans certaines grandes affaires criminelles. Ce fut le cas récemment avec l'affaire Outreau, où certains protagonistes ont revécu par comédien interposé les scènes qu'ils avaient subies en garde à vue ou dans le cabinet du juge, de Sambre qui retrace le parcours criminel d'un violeur pendant 30 ans dans le nord de la France. Les productions ont dorénavant pris le parti de faire appel à des avocats ou à des magistrats comme conseillers juridiques pour éviter toute erreur de procédure. Alors, témoin de 3 décennies de fonctionnement de la justice, je peux attester que l'institution est certes malade, mais qu'elle se soigne. On l'a dit, elle est sortie de son silence, de sa tour d'ivoire, de l'isolement dans lequel elle se complaisait, elle se projetait, elle se protégeait. Peut-être lui faut-il désormais aborder un autre chantier. Pour un récent ouvrage que vous avez cité, j'ai rencontré des victimes, des accusés, des innocentés, des condamnés, des magistrats. Tous se considèrent comme des cabossés de la justice. Tous sont sortis broyés par la machine judiciaire, confirmant l'idée que l'on ne sort pas indemne d'une procédure, quelle qu'en soit l'issue. Tous font le même constat. La justice ne présente jamais ses excuses après les erreurs et les dégâts qu'elle a commis. Les magistrats, auteurs de ces fautes, ne sont jamais sanctionnés et continuent leur carrière dans une impunité coupable. Les sanctions prononcées par les formations disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature apparaissent souvent comme superfétatoires. Rappelons pour mémoire la réprimande, la sanction la plus faible prévue par les textes, qui a été prononcée à l'encontre du juge d'instruction du dossier Outreau, décalé et incompréhensible au regard des 13 acquittés. De notre côté, journalistes, nous avons également des efforts à faire, savoir de quoi nous parlons. Les magistrats doivent avoir conscience que les journalistes qu'ils ont devant eux ne sont pas forcément des spécialistes, que de chaque côté, on doit faire l'effort de ne pas employer un jargon juridique trop abscon, totalement hermétique pour le commun des mortels, tout en employant la bonne terminologie pour être crédible. Alors si prochainement, vous pénétrez dans une salle d'audience, n'omettez pas d'avoir un regard en direction du box de la presse. Je vous remercie.
Merci de ce temps, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les académiciens et Mesdames et Messieurs. En effet, venir comparaître devant vous est une occasion rare. Notre place de chroniqueur judiciaire ou de spécialiste de la justice en général est plus sur ces bancs un peu inconfortables, mais qu'on ne voudrait pour rien au monde quitter, puisque notre paradoxe au quotidien est de devoir sans cesse écrire, parler de la justice, mais d'être, et c'est bien normal, les seuls professionnels à devoir observer le plus strict silence à partir du moment où l'on franchit les portes d'une enceinte judiciaire. Alors c'est comme si nous ne savions rien. Il faut revenir au simple, au basique. Dans un procès, les rôles de chacun sont assignés. Le juge juge, le procureur accuse, l'avocat plaide, l'accusé nie. Le journaliste, lui, doit uniquement comprendre la réalité d'un dossier, ce qui n'est pas toujours si facile, tendre l'oreille vers les mots des autres, ce qui est toujours très riche, et enfin saisir le contradictoire et parfois l'aveu, ce qui nous conduit dès lors à nous défaire de toute apparence de légèreté que nous aurions voulu mettre en avant en arrivant dans les salles ou même devant vous, puisqu'en fait nous sommes au plus près. Nous sommes au plus près des alchimies judiciaires, nous sommes au plus près de ces cocktails, que ce soit les meilleurs comme les pires, et une fois dans le chaudron, nous avons, nous aussi, l'obligation d'assumer notre rôle. Parce que le spectacle de la justice, si c'en est un, pourrait nous conduire à demeurer interdits, sidérés, muets, mais nous n'avons pas le droit d'être muets, c'est notre responsabilité à nous. Nous avons en tête, par exemple, les commandements d'Henri Grunewald, qui était rédacteur en chef du Time Magazine dans les années 70. Le journalisme, disait-il, ne peut jamais se taire. Telle est sa plus grande vertu, mais aussi son plus grand défaut. Il doit parler, et parler tout de suite, pendant que les échos émerveillés, les cris de triomphe et les signes de l'horreur planent encore dans l'air. Et tout le problème, en fait, est là. Les émotions sont encore intactes, les culpabilités totalement incertaines et les plaies à vif quand le chroniqueur judiciaire doit y tremper la plume. Le fameux contact et la distance que suppose notre métier implique donc à la fois de ravaler nos larmes, de canaliser nos colères et de rester sourd à ce qui se dit de l'affaire à l'extérieur pour essayer de trouver le bon équilibre pour raconter d'abord les faits, ensuite les contextes dans lesquels tout ça s'est déroulé, et puis avoir quelques commentaires pour savoir avec quelle perfection ou quelles imperfections judiciaires tout cela a été examiné. Et c'est par ces trois perceptions que je voulais tenter de décliner mes réponses à cette grande question des regards sur la justice, c'est-à-dire la justice face aux hommes, la justice comme miroir de la société, et puis la justice comme mécanique, avec toutes les questions que ça peut poser à notre institution. Il faut bien commencer par vous dire que c'est une passion. Notre mission suppose bien d'avoir le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. C'est l'expression qui est employée par la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes. Mais lorsque la justice est bien faite, finalement, il suffirait presque de la seule audience publique pour en rendre compte. Nous sommes à ce jour 250 journalistes membres de l'Association de la presse judiciaire, une forme d'idéalisme qui n'est pas totalement béat et qui peut même assez souvent être déçu, fait que la plupart d'entre nous considérons encore les salles d'audience comme des lieux sacrés, parmi les dernières arènes de débats posés, complets, contradictoires et riches. Et c'est pour ça que nous voulons chaque fois y retourner, à la fois dans ces salles et dans cette association qui a été fondée en 1887, qui est l'une des plus anciennes des journalistes parisiens. Elle forme une confrérie, Emmanuel Carrère, avec lequel j'avais couvert pour le Nouvel Obs le procès V13, c'est-à-dire le procès du Stade de France, des terrasses et du Bataclan, avait tendrement caricaturé cette confrérie en la comparant avec la famille des critiques de cinéma. Les premiers avec comme rassemblement tribaux, disait-il, les festivals de Cannes, de Venise ou de Berlin, les seconds, c'est-à-dire nous. Nous avions la gloire d'avoir fait Dijon pour Villemain ou Lyon pour Barbie, et il disait que c'était quand même bien meilleur que, et bien plus sérieux que le septième art. Notre quatrième pouvoir, de notre côté, cadre la justice dans une focale beaucoup plus serrée, beaucoup plus réduite. Notre caravane de journalistes serait trop modeste pour raconter à la fois les trois juges, les prisons, les tribunaux et les cours. Il est vrai donc que nous nous consacrons à une toute petite partie des contentieux, et c'est quelque chose qui est souvent mis en avant et qu'on peut déplorer. Comme le grand public, comme les élus et comme l'exécutif voit la justice, on ne la voit et on ne la cadre, nous, que par le prisme pénal, rarement par l'activité civile et encore moins par l'administrative. Les scènes scrutées par les journalistes que nous sommes sont donc essentiellement la cour d'assises ou les tribunaux correctionnels. Parfois, parce qu'il faut bien crever cet abcès maintenant devant vous, c'est aussi une façade judiciaire sur laquelle nous trouvons une fenêtre pour essayer de contourner les secrets de l'instruction. Le secret des sources qui doit nous être garanti et la partie de ces récits-là n'ont pas comme vocation de permettre des voyeurismes ou des sensationnalismes. Sa raison d'être, en revanche, est de permettre de livrer au public l'existence d'une affaire que les juges n'ont pas encore fini d'instruire ou qui peut être tue, hein, ça peut malgré tout arriver. Notre critère est qu'il s'agit d'événements qui méritent d'être apportés à l'opinion publique, soit parce qu'ils agitent tout un pays, au point sinon de troubler l'ordre public, de troubler certaines consciences, soit simplement parce que ce sont des faits d'intérêt public. Et le pénal, ce droit qui est le plus déchirant sur les vies, ce droit qui est constitué d'argent et de sang, provoque, à vrai dire, une fascination qui n'est pas totalement nouvelle. On sait que les affaires Martin Guerre ou Jean Calas avaient déjà fait les riches heures de la chronique, mais je voulais aussi vous parler de Madame de Sévigné, première femme chroniqueuse connue, qui ne se fixait que très peu de limites au viol du secret de l'instruction. Elle était même allée plus loin pour raconter les déboires du surintendant Fouquet. Elle avait allègrement violé le secret des secrets, c'est-à-dire le secret des délibérés, puisqu'elle avait, dans une lettre de décembre 1661, raconté la liste des juges qui avaient voté la mort de Fouquet, raconté la liste des juges qui avaient préféré le bannissement, et puis avec la saveur que connaissaient ses écrits, elle avait raconté l'histoire de celui, l'opportuniste, qui avait attendu que tous les autres aient voté pour enfin exprimer ce qu'il voulait faire. Honoré de Balzac, Émile Zola, François Mauriac sont aussi les noms de ceux qui se sont servis des procès comme d'un balcon pour trouver leur personnage préféré. C'est également sur ce registre que la presse s'est longtemps inscrite. La chronique judiciaire avait fait le secret de la Gazette des tribunaux à partir de 1825. Et un peu plus d'un siècle plus tard, en 1954, effectivement, au procès de Gaston Dominici, les appareils photo qui avaient alors comme particularité technique de faire du bruit parce qu'il y avait des gros flashs au magnésium et il y avait le droit de citer, mais ce fut la dernière fois. Nous sommes donc dans ces lieux interdits aux caméras, réservés aux seuls carnets et aux stylos, dans un procès qui forme un lieu géométrique. C'est le lieu géométrique du malheur qu'avait théorisé Robert Badinter à propos de la cour d'assises et du triangle de trois douleurs. Malheur de la victime elle-même et au-delà, malheur de ses parents et de ses proches. Malheur aussi des parents du criminel. Malheur, enfin, bien souvent de l'assassin, disait-il. On oublie souvent dans cette géométrie les côtés et les angles qui sont occupés par les magistrats. Eux-mêmes ne semblent pas bien savoir, d'ailleurs, trouver leur place quand une affaire prend la lumière et qu'ils ont conscience qu'on les regarde. Les juges avaient beau esquiver constamment les feux de la rampe, ils étaient là, au sommet de l'estrade, face au public, comme des acteurs de théâtre, et ce public était censé représenter le monde entier, avait écrit Hannah Arendt quand elle avait raconté à Jérusalem en 1962 le procès d'Eichmann dans une description très universelle qui pourrait s'appliquer à plusieurs procès récents. Mais on pourrait rajouter la fascination et la crainte mêlée qu'inspirent sur les bancs de la presse ces magistrats, ces gens de justice, comme on dit, avec des rites curieux et, selon l'expression d'un très haut magistrat, des hommes qui exercent un métier dangereux, mais qui, à nos yeux, tiennent un rôle important parce qu'ils tiennent dans leurs mains l'alchimie des instances de justice que nous venons chercher. On sait qu'il n'y a pas de grand procès sans grand juge, sans grande défense, évidemment, mais aussi sans procureur. Face à ces scènes de justice qui vont à présent se dérouler devant nous, je voulais parler de mon métier. Alors, ce n'est pas une science dure. Une chronique judiciaire recherche en réalité les éléments et les moments où tout bascule. Ce sont ces instants qui, soudain, lors d'une audience, éclatent aux yeux de tous à l'occasion d'un mot, d'un geste, d'un aveu. C'est le mouvement, par exemple, qu'a fait un tueur en série un jour dans une audience en mimant la façon dont il aurait porté un couteau, stupeur dans la salle totale. Dans un autre procès total, c'est un avocat qui, soudain, avait annoncé qu'une femme qui était portée disparue était en fait vivante et qu'elle venait tout juste d'entrer dans la salle. Elle était là. Regardez-la, elle était là. Alors l'accusé allait-il se tourner vers la porte pour vérifier ? En réalité, seul à l'instant, les innocents se sont tournés vers cette porte puisque le coupable, lui, savait très bien, à moins d'un miracle au sens propre du terme, que la disparue en question n'avait aucune chance de réapparaître. C'était un test. Il faut comprendre et saisir tous ces divins détails qui sont chers à Nabokov pour les restituer. Ce sont des petites secondes de vérité qui provoquent ce que notre confrère Stéphane Durand-Soufflant avait appelé les frissons d'assises. Il y a aussi dans cette alchimie la part du juge, pour reprendre cette fois-ci l'expression savoureuse de notre consoeur Pascal Robert-Diard. Tout ça pourrait former une forme de magie, de théâtre, avec des personnages fictifs. Beaucoup plus sérieusement, nous devons en réalité à tous une rigueur absolue. Cela vaut pour les fameux gens de justice dont on a parlé, mais aussi pour vous, pour moi, soudain victime ou auteur, et même pour les témoins qui sont amenés à parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité, rien que la vérité, ce qui reste quand même une sacrée formule. Dans une chronique, nous devons aussi le respect absolu aux mots. Nous devons saisir à la volée ceux qui ont été prononcés et les restituer tels quels, au souffle près. Nous ne devons pas refaire les phrases à notre sauce pour qu'elles sonnent mieux ou qu'elles forment un bon procès verbal. Les seules exceptions que nous pouvons nous accorder concernent les sigles et les formules judiciaires à rallonge que nous devons rendre intelligibles à chacun, puisque décidément, c'est toujours une surprise, ces expressions judiciaires ne semblent jamais bien connues des lecteurs, y compris des plus éduqués. Cela vaut pour des tas de choses, les différents degrés de juridiction, les frontières fondamentales entre le civil et le pénal, entre le parquet et le siège, le prévenu qui n'est pas l'accusé, et puis, comme chacun sait, l'avocat général, qui n'est ni avocat ni général. Tout ça peut paraître à chaque fois très compliqué, mais en réalité, aux assises, par exemple, les jurés comprennent très vite qui est qui et quels enjeux sont dans la balance. Fondu dans ce décor, on peut en tout cas demeurer simple, trop simple, et limiter notre regard à la seule comédie humaine. Les chroniqueurs peuvent aussi s'amuser à continuer à faire tels de petits malins, des commentaires sans cesse durant les audiences. C'est ce que dit Sorge Chalandon avec saveur également dans son livre sur le procès Barbie. La presse dans son ensemble, comme cette fois-ci dans la formule célèbre de Mauro Giafferi, peut même aussi être vilipendée, n'étant considérée que comme le véhicule vulgaire de l'opinion publique qui s'imposerait comme une intruse dans le prétoire au point de venir tirer le juge par la manche. Mais on peut aussi rêver de faire mieux et trouver la belle affaire, pas uniquement celle qui fait vendre, celle qui fait rire ou pleurer, mais celle qui veut dire quelque chose, celle qui, en quelque sorte, raconte le pays, celle qui nous dit quelque chose de nous-mêmes. Dans les yeux des juges, en effet, on voit bien mieux qu'ailleurs toute une réalité de la société. Les magistrats, comme d'ailleurs tout au bout du compte la prison, sont au terminus de bien des malheurs ou de transgressions que n'ont su arrêter ni les règles de la vie commune, ni les écoles, ni les lois, ni d'ailleurs, et c'est dommage, les organismes de contrôle. La justice est un révélateur, une loupe grossissante, et bien des audiences peuvent être troublantes lorsqu'on réalise cela, que l'enquêteur, le juge, est le dernier chaînon parmi les autorités publiques à pouvoir mettre à nu des invisibles qui auraient ardemment souhaité le rester, dissimulés dans le secret des familles, des institutions ou dans des replis de la société. Cette impression, par exemple, fut frappante face au terrorisme récent. Je me souviens, dans une salle d'audience qui était dédiée aux affaires d'associations de malfaiteurs, d'en avoir entendu tant qu'à la fin, ni les juges, ni les avocats, ni moi-même ne sachions à qui nous raccrocher. Une forme de sidération l'avait emporté, pas seulement d'ailleurs sur le strict contour pénal des choses, mais sur l'ensemble des éléments qu'on avait entendus, ces petites affaires révélées à charge ou à décharge des centaines de choses. Tout cela se déroulait dans une grande salle, un peu comme la vôtre, mis à part le fait que ce n'étaient pas des bustes ou des statues en pied de Corneille, de Racine ou de Condorcet ou de Fénelon qui étaient là. Il n'y avait qu'une simple et belle Marianne qui trônait, qui était au-dessus de nous tous. Et c'est uniquement vers elle qu'on pouvait essayer de tendre les yeux pour voir si elle vacillait en écoutant tous ces prévenus qui avaient tous ambitionné, à un moment ou à un autre de leur vie, de s'en prendre à toutes les représentations possibles de la République. La juge, qui était juste en dessous, par définition, ne devait pas trembler. Elle avait la responsabilité que son petit tribunal d'écouter, d'essayer de comprendre et de vouloir décider, selon la formule consacrée. On aurait voulu lui souhaiter bon courage. Et ces procès se sont malgré tout déroulés dans le respect de l'état de droit. D'autres Marianne, partout en France, peuvent nous rendre compte de bien d'autres phénomènes émergents ou récurrents. C'est le cas de tous ces actes qu'on dit systémiques, mais qui le sont, comme les violences faites aux femmes, trop longtemps prises par les juges et par la presse comme des petites affaires individuelles. Il y a encore 10 ans, on les appelait passionnelles. Aujourd'hui, c'est impossible de les écrire de cette façon-là. On peut encore citer, dans le spectre de ce qui tombe sous le coup de la loi, 1000 déclinaisons de 1000 problématiques de notre société, les atteintes à la laïcité, la maltraitance, la fin de vie, la corruption, la misère sous toutes ses formes, ou encore, comme cela a été mis en avant et récemment par des figures du tribunal de Marseille, et avec le sursaut qu'on connaît, le banditisme en brande très très organisé. Il est rare que des magistrats, hors audience solennelle, dénoncent publiquement ces vagues qui semblent les submerger, mais c'est une alerte qui est adressée à tous. Et je crois qu'on ne peut pas reprocher aux juges d'être dans leur tour d'ivoire et l'accuser en même temps, dès qu'il en descend, d'avoir franchi une ligne blanche. Comme journaliste, je veux être réceptacle, et c'est une offre, s'ils le souhaitent, de pouvoir tendre l'oreille à chaque instant en difficulté à leur liberté d'expression et à une forme de devoir d'alerte. Nous en arrivons avec eux, d'une certaine façon, à la question principale, c'est comment juger tout ce magma. On aurait bien voulu demeurer sagement à observer ces juges aux mines impartiales face aux tourments de la société sans leur demander aucun compte, mais on sait bien que ce n'est pas possible. Il nous faut voir comment sont séparés les innocents des coupables, quels empilements de lois nouvelles, qui d'ailleurs sont suscités précisément par la médiatisation des affaires incandescentes, sont à la disposition des procureurs et des juges, si ces lois suffisent, si elles sont bien calibrées, et quels usages ils en font. Une règle d'or existe. Jamais on ne peut juger un phénomène en soi. C'est un homme, un individu singulier qui doit répondre face à la loi. Il faut donc gérer, là encore, ce paradoxe. Le faire nous amène à confronter nos idéaux de justice et la réalité de cette institution. C'est la justice douteuse et précaire qu'avait décrite Gide. Et ce slogan est assez universel et permanent, puisque la précarité est d'abord bassement matérielle. Encore aujourd'hui, la crise du service public de la justice, qui a été mise en avant par le comité des États généraux de la justice de Jean-Marc Sauvé, qui est venu s'exprimer devant vous, n'est pas un vain mot. Le comité a même détaillé la gestion des flux insoutenables dans un contexte de pénurie de moyens. 1000 anecdotes existent sur ce point. Ce sont ce qu'on a pu filmer, par exemple, dans un documentaire à Lille récemment, avec un matin, en pleine audience correctionnelle dédiée aux affaires de violence conjugale, en présence d'une demi-douzaine de prévenus, et ce qui est rare, une demi-douzaine de plaignantes, qui étaient tous venus pour entendre la justice, le système informatique qui plante au moment le plus crucial, c'est-à-dire au moment où tout le monde doit parler, et on voit ainsi la priorité absolue de politique pénale du moment se figer dans de longues et basses considérations matérielles. Au même endroit, on voit des juges qui n'ont pas le logiciel suffisant pour lire des expertises réalisées sur de puissants réseaux de criminalité, ou encore à Bobigny, des juges pour enfants qui racontent qu'il leur faut un an pour que des mesures soient mises à exécution tant il y a d'attente. C'est un dépit face à l'idéal. Il existe dans de nombreux endroits, comme l'a longtemps raconté celle qui était notre consoeur, Dominique Simoneau, avec les abus de l'usage de la détention, notamment dans les audiences de comparution immédiate. Elle avait rapporté comment des juges, tard dans la nuit, semble ne plus résister à la fatigue, à l'irritation, ou peut-être à une forme de résignation face aux petites et encombrantes affaires qui reviendront, exactement identiques dès le lendemain après-midi, et qu'au fond, elles pouvaient bien s'expédier, ces affaires. Heureusement, au jour le jour, c'est en tout cas ce qu'on constate, ces audiences de comparution immédiate changent, mais dans un effet de miroir saisissant, le dépit récent a été celui des magistrats eux-mêmes, puisqu'en 2020, dans une tribune marquante, dite « tribune des 3000 », ils ont manifesté leur lassitude face à une justice qui n'a plus de temps tant il y a à faire et qui est une justice qui n'écoute plus et qui chronomètre tout. Cette notion de travail empêché, au-delà même de l'idéal déçu, est une remarque que l'on entend encore aujourd'hui sans cesse, qu'elle vienne de la jeune juge placée au magistrat hors hiérarchie mais désenchanté selon ses propres mots, ou même de l'une des plus hautes hiérarches récentes de l'institution qui avait évoqué lors d'un entretien avec le président de la République son sentiment de désespérance. On observe décidément la société, on pourrait dire que la crise de l'hôpital ressemble à la crise de la justice, à ceci près que l'hôpital public ferme des lits alors que la justice ne cesse d'ouvrir de nouvelles chambres. Chambres dédiées aux financiers, au terrorisme, aux violences intrafamiliales et bientôt peut-être à l'environnement, sans compter les chambres supplémentaires pour absorber la délinquance avant les Jeux olympiques. Il faut toujours s'attaquer aux nouveaux contentieux, mais toujours tenter de réduire ce fameux stock qui est une plaie de la justice. Au pénal, cela passe par des options judiciairement très efficaces, mais que nous sommes bien en peine de raconter, puisqu'elles se déroulent, pour certaines, sans audience, sans publicité des débats. C'est le cas des procédures alternatives aux poursuites qui, depuis le début des années 2000, ont bondi avec les ordonnances pénales, les convocations par officiers de police judiciaire, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est le fameux plaidé coupable qu'on verra peut-être demain se développer même en matière criminelle. Tout cela change évidemment la justice telle qu'on la voit. C'est peut-être à ce moment-là que je réalise, comme Dominique avant vous, que tout ce que je viens de vous raconter, qui est fait de chroniques lyriques, sur de fortes et belles audiences, est peut-être en train d'être menacé de disparition soudaine, dissous dans une justice plus technique, plus en silo, loin des enseignements spectaculaires que le grand public pouvait s'imaginer. Le justiciable, aujourd'hui, en effet, ne rencontre plus nécessairement son juge. Parfois, il n'en voit aucun. Il voit une institution globale, un peu désincarnée, aux responsabilités diluées. Un délinquant, même chevronné, n'y retrouverait pas ses petits, vous a précisé François Sureau en ouvrant vos travaux, se félicitant tout de même de son côté qu'il en résulte un pittoresque auquel un esprit littéraire est sensible et dont les chroniques judiciaires recueillent les traces. Alors, les séries américaines ont effectivement longtemps modelé une perception erronée de la justice avant que les chaînes françaises ne trouvent de bons engrenages et d'autres réussites. Mais nous courons effectivement ce risque qui est de ne raconter qu'une justice criminelle de luxe qui n'est pas celle de nos concitoyens. C'est un diagnostic sévère à la fois pour la justice, mais pour nous qui l'a raconté. Cela ne peut que nous interroger. Déjà, il est rare qu'au moment d'un verdict, quand on annonce que 10 ou 20 ans de réclusion ont été prononcés par une cour, des commentateurs qui n'ont rien suivi de l'affaire haussent les épaules et viennent ironiser en nous assurant que de toute façon, l'accusé n'en fera pas la moitié. C'est comme si le grand public avait en quelque sorte intériorisé des calculs judiciaires qui existent vraiment, mais qui étaient jusque-là discutés uniquement, et avec raison, entre initiés de la complexité de l'exécution des peines. On parle de populisme judiciaire, avec sa déclinaison de populisme pénal. Il peut s'appuyer, il est vrai, sur plusieurs exemples douloureux, mais il est difficile ou impossible à objectiver. L'accusation de laxisme des juges, par exemple, est une notion qui existe en permanence dans le débat public. Elle est impossible à raccorder de façon réelle avec les statistiques officielles et certifiées de l'administration pénitentiaire, puisque, comme vous le savez, les records de détenus sont battus absolument chaque mois. Face à cela, comme journaliste judiciaire, nous ne pouvons que rappeler des mots aux allures un peu fanées, l'autorité de la chose jugée, la présomption d'innocence, la pédagogie, le décryptage et les efforts à faire pour continuer à tenter de faire que l'institution nous ouvre de nouvelles fenêtres pour la raconter plus vite, plus complètement, ce qui se fait déjà avec beaucoup de communication de la part de l'institution. Mais il faut en faire toujours en sorte pour que nous puissions retrouver nos petits, selon l'expression employée précédemment, et traduire ce qui se déroule vraiment. Je voudrais dire un mot sur ce diagnostic le plus terrible, qui est le malentendu, à mon avis, le plus criant entre l'institution et les citoyens, et qui se raccroche à une expression qui ne figure pas dans le code pénal, c'est l'expression d'erreur judiciaire. On vous a parlé à l'instant des difficultés de l'institution pour reconnaître les malfaçons ou même les marges d'erreur. Pourtant, la loi a avancé. Des réformes récentes portées par Elisabeth Guigou en 2000 ou plus récemment à l'initiative de parlementaires ou encore de la loi de confiance très récemment ont ouvert de nouveaux droits, l'appel aux assises, les demandes de révision plus faciles. Il y a déjà longtemps, c'est comme ça que le dossier Sesnec vous est arrivé, Monsieur le Président, quand vous présidiez la chambre criminelle et par là même la cour de révision. Les lois de 2000 ont aussi consolidé d'autres dispositifs, comme par exemple la possibilité de mieux réparer financièrement les innocents, c'est-à-dire ceux qui ont eu à subir une détention provisoire qui s'est soldée par un non-lieu, un acquittement ou une relaxe. Tout cela devrait être extrêmement vertueux. On répare les justiciables qui ont été innocentés. Pourtant, à assister à ce spectacle, c'est comme si cette strate supplémentaire avait focalisé de nouveaux ressentiments face à une institution à laquelle, décidément, quels que soient les dispositifs, les réformes et les bonnes volontés, on n'arrive à trouver aucune grâce. Pour un livre, j'avais suivi durant un an les audiences que j'avais appelées celles de la Chambre des innocents. Le titre officiel était la Commission nationale de réparation de la détention provisoire. J'avais été frappé par les récits des vies brisées par l'incarcération provisoire, mais j'avais été surpris aussi par le fait que les requérants, finalement, ne venaient même pas stigmatiser leur juge, ou un juge en particulier. Cela rejoint ce qui a été dit précédemment, et puisque vous n'entendez dans vos travaux aucun justiciable ou aucun usager direct de l'institution, peut-être faut-il à cet instant un tout petit peu porter leur voix, face à l'irréparable, finalement, ces innocents n'en voulaient pas au juge en particulier, ils en voulaient au système, au juge au pluriel, à l'institution, d'une façon indéfinie, soit celui de l'instruction, soit le juge de la liberté et de la détention, ou peut-être un autre, ils ne savaient pas très bien. En fait, ils se souvenaient uniquement de celui, souvent, qui leur avait mal parlé. Mais pour le reste, ils savaient bien que les poursuites disciplinaires contre des magistrats n'étaient pas engagées, du fait que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas être saisi d'actes juridictionnels à proprement parler, mais aussi du fait que dans la majorité des cas, qu'il s'agisse d'une seule et unique manifeste erreur d'appréciation d'un magistrat à définir, on n'en trouvait pas. C'était davantage des affaires chaotiques dans lesquelles on aurait pu convoquer Kafka, mais tout de même dans lesquelles personne n'avait réussi à se lever pour arrêter cette sourde mécanique. Ces innocents ou ces innocentés, qui sont au nombre de 500 par an et auxquels l'État consacre chaque année environ 10 millions d'euros en enveloppe globale de réparation, repartaient invariablement de ces salles en considérant qu'ils avaient été chichement réparés, mais surtout qu'on ne leur avait rien expliqué, à part qu'il fallait tourner la page. C'était à chaque fois un triste spectacle. À propos de chiffres, je terminerai par là, nous devons continuer à observer la justice avec les palais, les audiences, les accusés, les affaires, mais aussi raconter l'institution. C'est tout ce qui se déroule depuis 3 ans, finalement, en France, avec le ministère de la Justice, puisqu'après la tribune des 3000, après les états généraux de la justice, la clochardisation de la justice a été prise à bras-le-corps, avec à la fois des hausses de budget colossales, en comparaison à celles qui avaient été accordées précédemment, avec des lois de confiance, lois organiques, lois de programmation mises en avant par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, avec embauche de nouveaux personnels qui font changer la physionomie des équipes, des magistrats et de ceux qui sont autour d'eux, avec une priorité également sur l'amiable, mais aussi l'exigence de nouvelles organisations. Le message passé aujourd'hui par l'exécutif est qu'après avoir réarmé notre justice depuis trop longtemps sous-dotée, elle doit désormais rendre visible par des résultats les efforts qui lui ont été alloués. C'est une forme d'effectivité prioritaire pour qu'aux yeux, non des juges, mais de l'opinion et des gouvernants, les missions de la justice soient enfin anoblies. On ne peut pas raconter la justice si on se tait aussi sur ces antagonismes qui secouent encore aujourd'hui les certitudes des uns et des autres. Dans l'idéal de justice tel qu'on peut le concevoir, il existe au moins un malentendu que l'on peut citer, c'est celui des jurés d'assises. Ils étaient l'incarnation peut-être illusoire de nos chroniques d'antan, avec les citoyens qui étaient tirés au sort, sans doute un peu fragiles face à certaines criminalités, mais qui demeuraient des piliers symboliques des verdicts rendus au nom du peuple français. Désormais, il faut bien le dire, ces jurés se réduisent, peu à peu remplacés dans les cours criminelles départementales par des bataillons de juges professionnels. On sent que les premiers vont un peu nous manquer. Alors désormais, face à l'avenir de la justice, le chroniqueur, l'observateur, est, comme il est face à l'accusé, il est aux aguets. Il se demande si on est vraiment pour l'institution à un moment de bascule ou si finalement, hélas, rien ne sera vraiment réglé. Se bâtit aujourd'hui, comme toujours, une question lourde, fondamentale, la place qui sera prise par le pouvoir judiciaire ou celle qui sera donnée à l'autorité judiciaire, mais se construit ou se déconstruit en même temps un autre lien invisible, presque affectif, souvent irrationnel, entre les citoyens et leur justice. Notre responsabilité, sans aucune légèreté cette fois-ci, est peut-être de ne pas plier face à cette défiance qui vise toutes les institutions et la presse compris et qui menace l'état de droit. On peut faire un pari, se convaincre qu'il faut continuer ce petit artisanat qui consiste à raconter des histoires de justice, à toujours trouver la bonne distance et à continuer à nous faire ouvrir les portes de toutes les salles d'audience et même avant celle-ci, miser sur une transparence plus grande et plus adaptée à notre temps. L'institution qui change a besoin de nous pour montrer ce qu'elle fait, et cela passe par nous. C'est un défi simple, basique, que chacun joue son rôle. Cela paraît évident, mais sans cela, le risque est assez vertigineux en réalité. Il nous laisse propager l'idée que la justice peut très bien se rendre ailleurs que dans des enceintes judiciaires. Et d'avance, on sait très bien que cette pente-là fait en réalité de très très mauvais procès. Je vous remercie de m'avoir écouté.